France Inter, le 18-20.
Un bon ordinateur, un téléphone efficace, un wifi qui cavale et ainsi soit le travail. A-t-on besoin d'aller dans son entreprise pour tout ça? Pourquoi pas le faire à la maison où, ça se multiplie dans un espace de coworking en bon français pour rester dans une ambiance de travail mais sans avoir à traverser la ville, voire d'ailleurs à traverser la France. Le télétravail ne met pas à distance du travail mais à distance de l'entreprise seulement. Et les grèves en ce moment font repenser à cette option qui nous laisse en queue de peloton quand même nous en France par rapport à nos voisins. On n'est pas très télétravail chez nous, on n'est pas très télétravail parce que on a peur de l'isolement, des conséquences sur une carrière, ça c'est l'argument plutôt des salariés, parce qu'on a peur de perdre en cohérence d'équipe, ça c'est plutôt l'argument des employeurs. Pourtant la nouvelle loi de travail encourage le télétravail théoriquement, en tout cas elle demande désormais à l'employeur de motiver un refus éventuel, mais les chiffres bougent à peine. Il est d'ailleurs très difficile de trouver des données réellement fiables, preuve que ce télétravail peine à entrer dans notre culture, un peu comme si le travail à distance, comme l'amour à distance, c'était marrant au début, puis finalement pas très pratique. On a jusqu'à 20h pour en parler ensemble. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Marc, soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Bonsoir, merci pour vos émissions. Je tenais à intervenir sur votre émission pour vous dire mon point de vue. Mm-hmm. À ce niveau-là. Je suis ingénieur dans une société de mobilier aérien à Roissy et ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille pour cette société. Je passais beaucoup de temps à prendre les transports. Mmh. C'est-à-dire que j'en avais pour 1h30 aller, 1h30 retour, j'en avais pour 3h par jour. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec les transports, c'est un petit peu compliqué. Et je suis bien content de ne plus avoir pour les transports. Moi je bosse dans Paris, je travaillais sur Roissy. Mmh. Aujourd'hui, je travaille tout le temps dans Paris et chez moi.
Et vous travaillez, c'est ça, vous travaillez de chez vous, Marc. Vous travaillez pas dans un espace, vous travaillez de chez vous.
Je travaille de chez moi et en fait je viens de temps en temps à mon bureau sur Roissy, mais je travaille essentiellement de chez moi, effectivement.
Et quand vous avez dit à votre employeur que vous souhaitiez cette solution-là, comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé de façon un petit peu simple, c'est-à-dire que j'ai eu de gros projets à réaliser qui m'ont permis de travailler à domicile et qui ont fait que mon employeur m'a laissé travailler à domicile, en fait. Mmh. Il n'avait pas trop le choix. Et en l'occurrence, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas pour moi, c'est une très bonne chose.
Et ce sera la dernière question, après je vous lâche, c'est promis. Qu'est-ce que vous y avez, à part le temps évidemment, vous l'avez évoqué, 3 heures de trajet en moins c'est beaucoup, mais qu'est-ce que vous y avez gagné? Est-ce que vous avez l'impression que la qualité de votre travail est meilleure, que votre qualité de vie est meilleure? Qu'est-ce que vous y gagnez?
En fait, on y gagne de part et d'autre, c'est-à-dire que mon employeur y gagne, j'y gagne de mon côté, c'est-à-dire que moi de mon côté je gagne 3 heures de temps par jour, donc je travaille un petit peu plus pour mon employeur, effectivement. Mmh. Je vais travailler peut-être 2 heures de plus pour lui, mais je gagne 1 heure pour moi. C'est-à-dire c'est le temps de trajet pour aller au travail qui me permet en fait de gagner ce temps. Donc lui il est content parce que il gagne en temps de travail, moi j'y gagne en temps de trajet. Donc chacun il gagne de son côté.
Dites-le nous, votre employeur ne vous écoute pas, est-ce qu'il vous arrive de travailler en pyjama par exemple?
Il m'arrive de travailler en robe de chambre.
Ah
effectivement. Non, mais évidemment, les conditions de travail sont complètement différentes. Je pense que pas mal de personnes auraient du mal à travailler de chez eux de la même façon. Enfin, c'est un petit peu délicat. On a peut-être un petit peu moins de contact avec les gens. Mmh. Ça peut être quelque chose d'un petit peu délicat. Je pense que quelques personnes auraient beaucoup de mal de le vivre. Pour ma part, je suis assez indépendant et ça me pose aucun problème.
Merci. Merci Marc, merci pour cette jolie entrée en matière qui nous permet d'entrer directement dans le débat. Pour vous répondre autour de la table et avec nous jusqu'à 20h, Clément Rouchet est là, bonsoir. Vous êtes manager dans le cabinet Green Working, vous êtes spécialisé en conseil et formation en innovation managériale et spécialiste du télétravail. Et puis dans un instant, Bénédicte Ravache nous rejoindra, qui est secrétaire générale de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Clément Rouchet, c'est intéressant ce que dit Marc. Je reviens sur ce qu'il disait à la fin. Il faut de la discipline quand même, quand on est chez soi et qu'on travaille seul. Sinon, ça marche pas.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent un des points d'attention de l'employeur avant de pouvoir se lancer dans une politique de télétravail. C'est de s'assurer qu'on sensibilise suffisamment les collaborateurs en amont. Vous l'avez dit et Marc l'a dit, il y a besoin d'autonomie, il y a besoin d'automotivation, il y a besoin d'autorégulation aussi pour éviter que le télétravail ne déborde un petit peu trop sur les plages personnelles à proprement parler. Et puis, il y a aussi surtout besoin de s'automotiver parce qu'on n'a pas forcément les pairs, ses collègues, pour s'émuler et pour pouvoir travailler tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un des points d'attention, c'est d'arriver à passer des bons éléments clés sur le télétravail pour s'assurer que ce sont des profils qui sont les plus adaptés pour pouvoir télétravailler. Et nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'on atteint rarement plus d'une personne sur deux qui candidate, quand bien même il existe un dispositif de télétravail.
C'est variable en fonction. Il y a beaucoup d'échecs ou pas ? Beaucoup de gens qui se disent « moi je vais essayer » puis finalement non, ils ne sont pas faits pour. La sociologie de la machine à café dans une entreprise, ça compte aussi en fait.
Oui, complètement. La proximité apporte des bénéfices, mais le taux d'échec est relativement faible. La réversibilité, comme ça s'appelle, c'est vraiment très faible. Il y a quelques cas pour des milliers, des dizaines de milliers de télétravailleurs. Et souvent, c'est effectivement soit un collaborateur qui a considéré que son espace de travail était compatible alors qu'il ne l'était pas, soit son poste ne l'était pas. Et donc, effectivement, c'est assez résiduel.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut avoir une pièce à part, non ? Chez soi, plutôt que de travailler dans la cuisine. Enfin, vous voyez, il faut pouvoir s'organiser un coin qui dit « là, je travaille ». Et puis après, quand je sors de cette pièce, je ne suis plus au travail.
Oui, effectivement, c'est mieux. Alors, c'est pas toujours possible, a fortiori en région parisienne où on sait la difficulté à avoir des logements qui peuvent être grands. Donc, effectivement, c'est mieux. En tout cas, c'est bien d'avoir un espace dédié pour éviter, ou en tout cas pour limiter au maximum la porosité vie pro-vie perso et s'assurer qu'on a des temps de travail à proprement parler à son domicile et des temps de repos, des temps de vie, effectivement, quand on télétravaille à domicile.
Bénédicte Ravache qui nous a rejoint. Bonsoir, Madame Ravache, secrétaire générale de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. On aime les initiatives de télétravail quand on est DRH. Ou pas. Est-ce que c'est intéressant un salarié qui dit, vous savez quoi, moi je voudrais travailler de chez moi, voilà ce que je propose.
Alors là, vous parlez du cas de l'initiative du salarié. Quand on est RH, on étudie aussi l'opportunité que représente le télétravail sur un point de vue collectif. On l'utilise beaucoup, notamment pour la question de l'équilibre vie pro-vie perso, parce que c'est souvent un des sujets. Le point qu'on a quand on est RH, c'est de s'assurer que la demande individuelle, elle est compatible avec le travailler ensemble. C'est pour ça que cette question de réversibilité, c'est de se dire, il y a des choses qu'on peut pas prévoir, il vaut mieux essayer, et après se dire, avec un bilan, est-ce que le choix d'une personne a un impact positif ou négatif sur son équipe, par exemple.
Mais ça veut dire que l'argument de la cohérence d'équipe, quand les employeurs se posent la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que ça, c'est un argument qui tient vraiment la route, qui vaut vraiment le coup. C'est même l'argument massue pour dire oui ou pour dire non, en fait.
Alors, pour dire oui ou pour dire non, peut-être pas dans ce sens-là. Par contre, se poser la question de la communication, de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est aussi ce qui permet d'innover, c'est ce qui permet d'être réactif, par exemple, dans une relation client. Donc, oui, c'est une vraie question. Mais de la même façon qu'il faut apprendre à travailler avec les outils numériques et à apprendre le savoir-vivre qui va avec, de la même façon, on n'écrit pas, on textote pas de la même façon. Et tout ce vivre avec, il faut l'apprendre et il faut pas décréter que du moment qu'on est à distance, finalement, on fait comme avant. Il faut apprendre ces modes d'organisation.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, Philippe, on vous écoute. Vous êtes un vieux télétravailleur, si je puis dire.
J'ai à peine plus de 50 ans, mais quand même.
Télétravailleur depuis 95, c'est ce que je voulais dire.
Voilà, depuis 95, oui, c'est ça, exactement.
Et racontez-nous.
J'étais salarié de la société qui m'employait depuis 3 ans, donc depuis 92, lorsque j'ai sollicité la possibilité de travailler à domicile. Voilà, ce qui a été accepté à l'époque dans la ville voisine de mon bureau. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai décidé de déménager beaucoup plus loin puisque j'ai télétravaillé, du coup, pour cette société comme salarié jusqu'en 2014 à 1000 kilomètres.
Oula, en effet.
Voilà, et aujourd'hui, je suis, suite à des restructurations financières habituelles par les temps qui courent, la société a mis fin à mon contrat et a éclaté en plusieurs morceaux qui sont devenus aujourd'hui mes principaux clients. Donc je suis devenu prestataire de mes anciens employeurs.
J'allais dire l'arroseur arrosé d'une certaine façon, en tout cas nouvelle version. Puisqu'on parlait des aspects positifs, Philippe, tout à l'heure avec Marc, moi j'aimerais savoir ce qui a été difficile au début pour vous en fait. Les aspects négatifs que vous avez vus dans le télétravail, c'était quoi ? S'il y en a eu d'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas eu.
Bah, C'est un peu comme comme avec les bébés, on se souvient pas trop des mauvais trucs, hein. les mauvais souvenirs quand ils sont tout petits. Là, il y a eu surtout beaucoup de bonnes choses vu que c'était un choix de ma part. Je pense que c'est l'essentiel du télétravail, c'est qu'il faut que ce soit un choix du salarié ou du travailleur et surtout qu'il y ait une relation de confiance avec l'employeur. S'il n'y a pas ces deux choses-là,
ça ne marche pas.
Je crois que ça ne marche pas, mais pas à long terme en tout cas. Oui, pas dans une rythmicité quotidienne à temps plein, quoi. Là, moi, comme j'étais à 1000 km, enfin, je suis toujours à 1000 km, il fallait. On ne se voyait pas toutes les semaines, quoi.
Ça, j'imagine. Philippe, merci beaucoup pour votre témoignage. Je reviens, Bénédicte Ravache, sur ce que disait Philippe sur il faut qu'on soit volontaire. Ça marche même des deux côtés. C'est un double volontariat, le télétravail, en fait. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut que ça arrange les deux au même moment.
Oui, et ça, on ne peut pas forcément le deviner au départ. Et il y a des modèles extrêmement différents. Là, le témoignage qu'on a eu, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des global virtual teams, c'est-à-dire des équipes qui ne se rencontrent pas.
En français, ça voudrait dire quoi ?
Des équipes global
et virtuel.
Voilà. Alors, on le dit en anglais, ça a l'air d'être net normal, mais c'est le fait de se dire, est-ce qu'il y a certains métiers, certaines actions qu'on peut faire, effectivement, en étant complètement à distance, et qu'est-ce que ça implique comme règle de vie?
Et bien sûr, Clément Rocher, qu'il y a des entreprises qui s'y prêtent plus facilement, il y a des entreprises pour lesquelles c'est facile, il y en a d'autres pour lesquelles ce serait extrêmement difficile, j'imagine.
Oui, bien sûr, c'est difficile d'imaginer son coiffeur ou son boulanger pouvoir télétravailler, et effectivement, c'est plutôt le secteur des services qui sont clairement concernés par ce type d'activité, mais après, des fonctions sièges de grandes industries ou autres.
C'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu Yahoo, Hewlett Packard, enfin toutes ces entreprises plutôt tournées vers ce genre d'activité ont été pionnières et du coup entraînent les autres globalement.
Oui, ou sont revenus dessus et pour le coup il y a eu aussi une tendance à aller, il y a des choses qui n'étaient pas télétravaillables avant.
Trop loin et revenir.
Voilà. Non, même sur des types de métiers, c'est-à-dire par exemple dans l'industrie automobile, il y avait des métiers qui n'étaient pas télétravaillables parce que les outils n'étaient pas accessibles à distance. Or il y a d'énormes progrès qui font que maintenant on peut travailler à plusieurs à distance, par exemple pour concevoir une voiture, ce qui peut être assez fascinant d'ailleurs à voir.
Mais alors qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'une entreprise comme Yahoo, comme IBM, c'est pareil, je crois, sont revenus en arrière? On en avait fait trop, puis on est un peu revenu. Pourquoi?
Alors il y a eu un changement de management aussi, et d'une certaine façon, c'est aussi un choix d'entreprise de mettre le curseur sur ce qu'on considère nécessaire comme interaction, et puis comme protection de la confidentialité aussi, parce que quand je suis chez moi, je n'ai pas les mêmes protections aussi de la donnée que je traite. C'est vraiment des choix d'entreprise, c'est pour ça que c'est de l'individu et du collectif.
Et avant de rejoindre Adrien dans un instant, pourquoi le public s'y met très peu alors que le privé a l'air de s'y mettre plus? On a l'impression que le public est un peu allergique pour l'instant. Dans le secteur public, je me trompe ou pas, Clément Rocher?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, les ministères sont assez rares à être vraiment engagés dans ce type de dispositif. Après, on voit quand même des volontarismes assez forts. Je pense par exemple à la région Île-de-France, qui est une collectivité qui est assez volontariste dans le cadre de son déménagement, par exemple, sur ce sujet-là. Mais il y a un petit temps de retard. Oui, il y a effectivement un train de retard. Là où j'allais dire que la grosse évangélisation de la plupart des grandes entreprises du CAC 40, elle a eu lieu maintenant, il y a 4-5 ans, et elles sont maintenant en phase de grande démocratisation de ce sujet-là.
Adrien, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne, Adrien. Allez-y, on vous écoute.
Je vous remercie de prendre mon appel. Donc, alors moi, j'appelle concernant une expérience qu'a vécue ma compagne dans son travail. Donc, elle était aux ressources humaines dans une grande entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont forcée à être en télétravail 2 à 3 jours par semaine. Et ce qui s'est passé, donc, elle a complètement perdu la relation avec les salariés, ce qui est la base de son boulot, c'est-à-dire relation travail entre le salarié et le patronat. Et donc elle a perdu le sens vraiment de sa fonction, et aujourd'hui elle a quitté son job et donc elle a vraiment, à cause du télétravail, elle a perdu cette relation, quoi, de l'essentiel dans son travail.
Et quelle était la raison, Adrien, invoquée par l'entreprise pour lui demander de télétravailler?
Alors il paraît que c'était pour le confort de l'employé, mais ce qu'ils disaient à l'entreprise, c'est qu'en gros, l'entreprise cherchait à faire des économies. Donc, en gros, ils commençaient à mettre en télétravail de plus en plus de personnes pour pouvoir, en gros, faire des économies sur un loyer à payer sur des locaux professionnels. Donc, voilà. C'était un peu une dérive d'une gestion très capitaliste, quoi. Donc, ça l'a un peu dégoûté.
Merci beaucoup, Adrien Bénédicte Ravache. Vous ne direz pas le contraire, vous, de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, quand la ressource humaine s'éloigne des salariés, c'est un souci quand même.
Oui, c'est un problème. Là, on voit une dérive, et il y en a, voilà, c'est quelque chose qui a pu se produire, de plusieurs expériences qui ont pu être menées en disant il peut y avoir des demandes de télétravail, on peut avoir aussi d'autres modes d'organisation. La mode des open space était aussi là-dessus. Donc, si on rationalise des mètres carrés, mais qu'on se dit que les nouvelles formes de travail doivent permettre de travailler à distance. Et c'est là qu'on voit que ça ne peut pas être des grands principes, ce n'est pas des questions de mètres carrés, parce qu'il faut vraiment que ce soit lié à la mission qu'on peut remplir. Et là, effectivement, quand la personne n'est pas volontaire et qu'elle ne s'y retrouve plus, mais d'une certaine façon, c'est comme quand on vous dit vous êtes commercial en direct, vous devenez commercial sédentaire, vous pouvez ne plus vous y retrouver.
Mais est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un du télétravail ?
Alors, si c'est un accord collectif d'organisation du travail, normalement, le principe du télétravail, c'est plutôt et plus efficace quand c'est partagé. Mais on peut avoir une forme d'organisation, comme le fait de dire on est en open space et donc maintenant on n'a plus de bureau, ou on va avoir une relation avec les clients à distance plutôt que d'être en contact direct. Il peut y avoir un accord d'entreprise, donc négocié avec des représentants, qui estiment que c'est une bonne solution pour l'entreprise. Le principe, normalement, c'est plutôt le volontariat.
Comment ça se passe désormais d'ailleurs? Parce que donc depuis la nouvelle loi travail, c'est l'employeur qui doit justifier son refus, en gros. Ça me paraît très aléatoire tout ça, très très différent d'une entreprise à l'autre. Comment ça marche ça? Comment on peut justifier un refus? Est-ce qu'il y a des critères? Comment ça fonctionne?
Alors le point peut-être, et vous comprendrez, le point c'est que en fait le télétravail ça date de 2005 hein, en termes de contexte un peu légal, et il y avait tout un tas de constats qui étaient faits qui disaient voilà, il y a une grosse partie par exemple du télétravail et pas du télétravail institutionnalisé, c'est du télétravail gris, c'est-à-dire une fois de temps en temps j'en ai besoin, il y a une grève, il y a quelque chose comme ça.
D'accord.
Et donc il y avait un sujet qui était de dire tout est fait d'une façon très très procédurière, et donc est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de plus souple? Ce que la loi a amené, c'est de dire entre télétravail occasionnel et télétravail il n'y a pas de différence, et on doit pouvoir le faire d'une façon souple puisque c'est un mode d'organisation souple. Mais il faut toujours distinguer le télétravail le télétravail qui s'inscrit dans la durée du télétravail occasionnel quand même. Et donc là, donc soit vous avez un accord de télétravail qui dit vous êtes dans une population qui a le droit parce que c'est possible, parce qu'on sait qu'on a le matériel, et vous pouvez prétendre à un ou deux jours de télétravail par exemple. Et là, si vous le demandez et que votre manager vous dit non alors que c'est prévu par un accord d'entreprise, évidemment il doit expliquer pourquoi alors que ça avait été prévu. Si vous êtes dans le cadre d'un télétravail occasionnel, c'est-à-dire ça n'a pas été prévu, on n'a pas de charte et tout, et que mon manager me dit non, eh ben, il faut qu'il m'explique que c'est parce que le client m'attend à 8 heures, par exemple, et que ça ne va pas être possible.
Et sinon, ça ne fonctionne pas. Clément Rouchet qui voulait intervenir.
Oui, il y a plusieurs effectivement typologies de critères qui sont fixés soit dans les accords collectifs, soit dans les chartes. Souvent, on a quand même le premier critère qui est l'activité. Est-ce que mes tâches, est-ce que mon poste est tout simplement compatible avec la distance, ou est-ce que j'ai besoin d'une présence physique quotidienne sur mon lieu de travail? Deuxièmement, j'ai aussi l'éligibilité du lieu où j'entends pouvoir télétravailler. Et ça, parfois, il y a des critères qui sont assez précis dans les accords ou dans les chartes. Et puis après, il y a la personne en tant que telle. On parlait tout à l'heure des comportements nécessaires en termes d'automotivation, d'autorégulation, etc., d'autonomie également. Ouais. Ça peut également faire partie des critères d'éligibilité sur un télétravail régulier.
Et qui contrôle à un moment, il y a bien quelqu'un qui contrôle si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, ou pas du tout? Ça se passe à la confiance? Comment ça marche?
Alors, déjà, le principe, quand on travaille, c'est la confiance. mais l'employeur est responsable du salarié pendant son temps de travail. C'était une des questions, d'ailleurs, dans l'évolution récente de la loi, qui est de dire, vous êtes dans votre période de travail, vous êtes chez vous, vous faites mal.
L'accident du travail marche.
L'accident du travail, c'est vous êtes sous la responsabilité de votre employeur. Donc, une des questions qui était posée, c'était de dire comment est-ce qu'on s'assure, par tout moyen, si je dis voilà, je suis en télétravail aujourd'hui, que mon manager me dit oui et qu'on a une trace écrite, je n'ai pas besoin de faire un truc plus compliqué. En gros, c'était ça qu'apportait la loi. Donc, vous êtes, mais ce sera bien, évidemment, un accident de travail parce que vous êtes dans le cadre de votre contrat de travail.
Bonsoir, Didier.
Ah, bonsoir,
Didier. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci de prendre mon appel.
Je vous écoute.
Oui, j'avais juste appelé pour donner un témoignage de la situation de mon entreprise et dans le cadre du territoire français. L'entreprise permet donc à des cadres et à des agents de faire du télétravail, à ceux en tout cas qui n'ont pas besoin d'accéder à du matériel propre à l'entreprise.
Et oui.
C'est généralement donc du tertiaire, des services support. Et je disais aussi que il y a un respect du droit à la au, comment on appelle ça, c'est le retrait par rapport à la connectivité, quoi.
Déconnexion. Ouais, la déconnexion.
Merci.
Je vous en prie.
Voilà, il y a un respect de, enfin il y a un respect de ça entre autres choses. Les personnes donc qui ont plus d'un an dans l'entreprise, qui ont un poste qui permet de faire du télétravail, peuvent de passer en télétravail. Parce que on estime qu'elles sont autonomes. Mmh. Elles ont eu un an d'expérience dans l'entreprise. Voilà. Donc c'est quelque chose pour lequel je suis très favorable. Il n'y a pas de problème de confiance parce qu'en fait, dans cette entreprise-là, les gens, on peut mesurer statistiquement le travail qu'ils font. Donc on voit que ce soit au bureau ou chez eux. La quantité de travail qui...
S'il y a un rapport à rendre, il y a un rapport à rendre au bout du bout.
Voilà. Et comment dire, donc il y avait ça qui était positif. Et oui, le seul problème qu'on a, c'est que donc comme je suis en province, les infrastructures réseau sont pour l'instant très concentrées sur les grandes villes. Mmh. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire du télétravail à cause des stabilités et des débits.
Absolument. Merci Didier pour ce témoignage. Et sur franceinter.fr, on a ce message de Jean qui nous dit peu ou prou la même chose, qui dit « Encore faut-il avoir Internet avec un débit suffisant. Dans ma campagne charentaise, j'ai dû m'équiper d'une connexion par satellite pour pouvoir télétravailler. » On n'est pas égaux devant le télétravail, clairement, Bénédicte Ravache.
Alors, c'est un point qu'on avait soulevé pendant la consultation en disant « Il y a une question de fracture numérique auquel le gouvernement a dit qu'il allait s'atteler. Et donc, effectivement, un des premiers critères que l'on étudie, c'est est-ce que vous avez un réseau suffisant pour pouvoir télétravailler dans des situations de confort ? Et quand on parle de prise en charge par l'employeur d'un certain nombre de frais, ça peut en faire partie. Mais évidemment, dans ce cas-là, tout dépend qui est le demandeur. Mmh. Effectivement, si je dis que je vais aller m'installer dans un coin où il n'y a pas de réseau et que ce n'est pas une volonté de mon employeur, il faudra qu'on en parle.
On parlait de déconnexion tout à l'heure avec Didier. Il y a plusieurs mails dans ce sens. Cyril de Grenoble nous dit avec ses méthodes de travail, on est harcelé par les mails. On doit répondre dans l'immédiat. On est finalement d'astreinte permanente. Mon mari travaille en home office, donc à la maison depuis 6 ans, nous dit Marie-Charlotte. Et son temps de travail a progressivement grignoté sur son temps de repos. Le travail à la maison ne permet pas réellement de quitter le travail. Clément Rouchet, c'est ce qu'il faut apprendre à faire peut-être.
Oui, exactement. Mais c'est d'ailleurs pour ça
fermer la porte, en fait.
C'est ça. C'est que le télétravail, c'est pas un sujet qui exclut. Exclusivement juridique, c'est un sujet éminemment managérial, éminemment organisationnel. Ça pose la question de comment on travaille, tout simplement. Et ces questions-là sur la déconnexion, la connexion, les plages où je suis connecté, où je suis déconnecté, l'usage de la messagerie instantanée, l'usage du Skype, l'usage de la visioconférence, etc. Ça, c'est des nouveaux usages qui doivent vraiment être développés et s'apprendre avec la distance. Et c'est pas inné. C'est-à-dire que concrètement, ça nécessite aussi un accompagnement des managers qui restent sur site, des collègues qui restent sur site, des collaborateurs télétravailleurs. Ça nécessite de les accompagner, de diffuser les bonnes pratiques, de partager, savoir mettre des bornes aussi, et ça fait vraiment partie de l'action d'accompagnement à la mise en place du télétravail.
Bénédicte Ravache, on parlait tout à l'heure d'avoir une pièce chez soi, effectivement, souvent, pour que ça fonctionne bien. Il y a aussi l'idée, effectivement, de fermer cette porte, de se donner finalement des horaires, de s'imposer des horaires, même lorsqu'on n'est pas dans une entreprise physique, en fait.
Et normalement, ça fait partie justement de ces bonnes pratiques, de ces chartes. Quand on met en place le télétravail, il faut pouvoir dire, par exemple, aux collègues, vous pourrez joindre cette personne de telle heure à telle heure, et dans cette plage horaire, elle répondra dans un délai, par exemple, de 2 heures pour que ce soit un délai acceptable. Donc le manager a la même responsabilité que quand le collaborateur est dans la pièce à côté, parce qu'il peut être aussi inondé le mail, donc on a la même question. Par contre, ce qu'on a peut-être moins comme habitude, c'est, vous savez, ce qu'on a eu sur dans les magasins en disant nous sommes ouverts de 9h à 12h, on va revenir. Sauf qu'en fait, c'est quand même le même principe, mais il faut apprendre à pouvoir le dire comme on le mettait sur les répondeurs téléphoniques. Mmh. Mais voilà, c'est ce à quoi on faisait référence, c'est le bon usage qu'il faut avoir et qu'il faut apprendre un peu en marchant.
Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de l'aptitude du salarié ou pas de travailler en télétravail, etc. Mais est-ce qu'on parle du salarié qui reste, lui ? On est une équipe de 3, par exemple, et puis l'un des 3 décide d'aller travailler loin. Mais qu'est-ce qui reste de l'équipe à 2 ? Peut-être qu'on s'entend moins bien, que c'est plus compliqué, qu'il manque finalement. Est-ce qu'on y prête attention aussi ?
Alors, c'est ce que je vous disais sur les périodes d'expérimentation. On y prête attention aussi simplement parce que vous êtes dans une équipe support. Celui qui n'est pas là, c'est celui qui n'ira pas ouvrir la porte. C'est pas celui qui fera la photocopie. Et donc, au bout d'un moment, ça peut avoir un effet sur les autres. Mais ça, c'est vraiment tellement propre à une organisation. On peut avoir l'effet inverse. Hein. On se voit moins souvent. On est plus content de se revoir. C'est vraiment une dynamique collective qu'il faut en tout cas pas considérer comme allant de soi.
Quentin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Quentin, soyez le bienvenu.
Merci. Moi, je suis télétravailleur depuis un an et demi, là, maintenant. Donc, j'occupe un poste de chef de produit. Et donc, du coup, j'ai une équipe avec qui je travaille d'environ 3-4 personnes, de manière directe. Et je fais ça à 800 km du siège, à
peu près. Et ça vous fait rire.
Oui, non, parce que c'est la société est à Paris.
Ouais.
Et moi, du coup, je suis dans le sud de la France. Donc, du coup... Voilà, ça empêche pas du coup de travailler. Pour le coup, on est plutôt performant. D'ailleurs, on a amélioré nos performances au niveau des indicateurs, puisqu'on a des indicateurs de suivi au niveau de la relation client et au niveau de ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Donc c'est un vrai plus. Enfin, moi clairement, je reviendrai pas en arrière.
Et vous pensez que c'est pour ça que vous êtes meilleur ou pas? Est-ce que c'est la réorganisation finalement du travail de chacun qui fait que vos performances sont meilleures ou pas?
Ouais, je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses. Déjà, on est beaucoup moins dérangé. Déjà, moi, c'est une des choses que j'avais avant, où en fait, on était constamment dérangé pour un rien. Alors que là, les gens vraiment se demandent si vraiment ils doivent déranger la personne pour faire le travail. Donc ça améliore en fait la performance en termes de communication. Après, il n'y a vraiment pas vraiment de changement quand même. On travaille plus, ça c'est sûr que tout à l'heure les auditeurs le disaient. On a franchement, même si on sait qu'on a des horaires, on sait qu'on a le PC à côté. Et puis bah du coup voilà, on le fait, mais on le fait avec bonne volonté. Donc du coup c'est peut-être ça aussi qui fait la
différence. Vous disiez, Quentin, que vous travaillez avec 3-4 personnes. Vous parlez comment? Est-ce que vous vous envoyez des mails ou est-ce que vous faites une conférence en visioconférence ou par Skype tous les matins? Skype. Ça se passe comment?
Ouais, c'est du Skype toute la journée. Enfin, toute la journée en fait.
Mm-hmm.
Donc ça marche hyper bien. On a plutôt des bonnes connexions Internet. Maintenant, effectivement, je pense que peut-être qu'en France, on n'a pas tous les mêmes connexions. Mais pour le coup, ça marche hyper bien.
Mmh.
Même du coup avec les clients qui sont du coup partout en France. Moi, je les appelle un peu partout en France. Franchement, aucun souci pour en termes de connexion. Donc.
Et vous voyez avec votre équipe des fois. Vous avez quoi? Un rendez-vous, je sais pas, mensuel, bimensuel ou.
Alors oui, j'y vais une fois tous les deux mois. Une fois par mois, tous les deux mois, j'y vais en fonction quand il n'y a pas des grèves. Bon, mais sinon, oui, je monte à peu près tous les deux mois. Je fais des réunions, et notamment avec les autres services, parce que du coup, moi, je suis impacté aussi par les services commerciaux, des formateurs, des gens qui ont besoin en fait de connaissances que je puisse distiller. Et donc, du coup, effectivement, je monte pour faire un certain nombre de réunions tous les deux mois, quoi.
Merci beaucoup, Quentin. Quand on écoute Clément Rouchet, quand on écoute Quentin, on se dit que ben il y a ceux qui sont punis, qui sont restés à Paris. Et puis il y a Quentin qui est content, qui est dans le sud, qui est descendu à 800 km finalement.
Oui, ben ça pose clairement une question de l'équité, hein, d'accès au télétravail. Il y a effectivement des métiers, comme on le disait tout à l'heure, mais des métiers qui sont éligibles au télétravail parce que l'activité s'y prête, d'autres qui s'y prêtent moins. Certains salariés vont y avoir droit parce que, ou en tout cas, vont y avoir accès parce qu'il y a la compatibilité. Mais je voulais revenir sur un point aussi qui est un point de réassurance pour beaucoup d'employeurs, c'est que le télétravail se traduit, et ça toutes les études le montrent, par à minima un maintien de performance et au mieux par une amélioration de la performance. Donc se dire que ça désorganise les équipes, se dire que ça nuit à la qualité du travail, c'est un argument qui, aujourd'hui, on le sait, est plutôt faux.
René Paul, bonsoir.
Bonsoir France Inter, je suis ravie de vous avoir.
Mais nous aussi, on est ravis de vous avoir. Vous êtes l'employeur, racontez-nous, René Paul.
Moi, j'ai appelé parce que je voulais donner mon point de vue. Je suis aujourd'hui à la tête donc d'une équipe que j'ai entièrement positionnée comme ça en télétravail, et je l'ai fait par choix parce que c'était ça ou perdre certains membres de l'équipe, puisqu'on était amené au fil de la dynamique de l'entreprise parfois à relocaliser certains groupes de bureaux ou certaines unités opérationnelles. Et y a des gens qu'on veut garder, mais qui sont pas prêts, eux, à bouger sur d'autres lieux. Donc moi, j'ai été amenée à choisir des gens comme ça, à leur proposer ça. Effectivement, ça passe d'abord par un choix des profils. Enfin, on peut pas proposer ça à n'importe qui, mais même lorsqu'on a choisi une personne qui semble pouvoir s'adapter... Ensuite, on rencontre un certain nombre d'obstacles, disons que la proposition fait apparaître des choses intéressantes, comme par exemple le fait qu'une personne qui va perdre son bureau, là où elle avait l'habitude de travailler avec ses collègues, a une espèce de sentiment de perte de statut, parce que ben j'ai plus mon bureau, donc j'ai plus... je suis plus celle que j'étais, donc il y a cette espèce de... Moi, ça m'a surprise énormément.
Mais je comprends, vous savez, nous, à Radio France, on a des travées. Un jour, je vous raconterai les travées à Radio France, ça marche pareil.
Moi, ça m'a intéressé de prendre ça en compte et pas de balayer l'objection, donc j'ai fait très attention à ça. Ensuite, il y avait une espèce de résistance en me disant, mais si je dis non, ça les empêchera de délocaliser. En fait, non, parce que... Mais ensuite, un petit peu à la fois, lorsque la personne finit par accepter, puis que vous lui montrez, parce que moi-même, j'ai été positionnée comme ça par mon employeur en 1992, encore plus ancienne que votre auditeur précédent, je me suis rendu compte du bénéfice que j'en tirais. Parce qu'en fait, au final, c'est vrai que certains disaient on travaille plus. En fait, c'est qu'on travaille différemment et on se sent tellement... sous carte blanche, c'est-à-dire il n'y a pas de badger, il n'y a pas de, c'est juste le résultat. Vous êtes sur un projet, vous livrez ou pas de résultats, donc effectivement ça correspond à un certain profil, mais au final les gens sont plus heureux. Et moi aujourd'hui, effectivement, mon équipe est beaucoup plus performante. On vient de terminer notre année et on a outperformé les Asiatiques et les Américains, puisque je suis dans une grosse compagnie globale, et parce que mon équipe est la meilleure. Et je voulais en parler parce que ça me paraît important. Et je voulais aussi dire qu'il faut respecter tout ce qui est sécurité des lieux. Moi, je suis personnellement allée auditer toutes les personnes de mon équipe pour voir, m'assurer que leur ordi est bien positionné, que leurs yeux vont pas s'abîmer plus vite parce qu'ils se mettent à la vitre. Enfin, que la sécurité électrique est là, qu'ils sont protégés, qu'ils sont pas trop isolés. Enfin, Et on a des procédures. Bon, les Allemands sont plus forts que nous là-dessus, mais il y a effectivement des guidelines qui sont données. Si on monte tout ça, l'employé se sent tellement valorisé, tellement en confiance, ça génère tout simplement beaucoup plus de bonheur. Donc, talent plus bonheur... tout le monde est gagnant.
Voilà,
je voulais témoigner de ça.
Eh ben, merci pour ce témoignage. On a bien compris que grâce à ce talent et ce bonheur, vous avez outperformé, donc, René-Paul. Et ça, c'est bien. Moi, il y a une chose qui m'intéresse dans ce que dit René-Paul, particulièrement Bénédicte Ravache, c'est le changement de paradigme, en fait. L'employeur délocalise, mais veut garder ses employés. Mmh. Donc, au lieu d'obliger à suivre, c'est lui qui s'adapte. Ça, c'est plutôt intéressant, en fait.
Oui, c'est la notion de lieu de travail qui change, mais aussi de le temps et le lieu, c'était un peu les fondamentaux du contrat de travail, et on est un peu plus maintenant vers finalement je contribue à quoi, et je suis un peu plus évaluée finalement sur ce que je réalise que sur ça. Pour autant, il faut aussi garder en tête, là on a des exemples de profils très très particuliers de cadres qui par nature sont plutôt autonomes. Il y a une grande vigilance à avoir sur des profils auxquels il faut porter attention, parce que la charge de travail, c'est un vrai sujet, la déconnexion, c'est un vrai sujet. Il faut avoir une forme d'assertivité ou de confiance pour pouvoir dire attendez, non, là je vais répondre plus tard, ça m'a priorité.
Et puis il faut pouvoir le dire à quelqu'un parfois, en fait. Si on a trop de travail, par exemple, ou je ne sais pas, il faut pouvoir le dire à quelqu'un. Et quand il n'y a pas de quelqu'un, ça devient peut-être un peu plus compliqué parfois.
Alors, il faut le dire, mais d'une certaine façon, le manager, vous avez des managers à qui il faut rappeler que regarder quelqu'un dans les yeux le matin, ça permet de savoir si celui qui est en face a la pêche ou pas.
C'est ça, regarde-moi dans les yeux, ordinateur.
Voilà. Et déjà, c'était pas toujours facile déjà en présentiel. Et donc, il faut trouver la même façon de prendre la température à distance. Et parfois, on est plus attentif quand on a quelqu'un au téléphone que quand on passe dans le couloir, parce que faire un grand bonjour de loin, c'est peut-être pas forcément plus efficace, mais il faut être très attentif à ça aussi.
Clément Rouchet ?
Oui, puis même, effectivement, pour rebondir là-dessus, mais les codes de communication sur un Skype ne sont pas du tout les mêmes codes de communication que par email, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le textoté, l'usage du smiley, etc., ça permet quand même, effectivement, de compenser les manques de la distance en faisant passer quand même certains éléments. Parce qu'effectivement, vous avez raison, le job du manager, c'est de repérer ce que le froncement de sourcil ça veut dire le matin, ce que ça veut dire la petite moue, et ça, quand on est à distance, c'est beaucoup plus difficile à repérer, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un sujet qui est managérial avant d'être juridique, par exemple.
Lise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Lise, on vous écoute.
Je vous appelle en fait pour apporter un témoignage. Il se trouve que ma cousine travaille à Paris et qu'elle est chef d'équipe dans une entité qui est gérée par l'État, sur laquelle je resterai discrète. Et il se trouve que récemment, la DRH a envoyé un mail pour rappeler l'importance du télétravail et la nécessité de le mettre en œuvre. Avec les grèves actuelles, elle a souhaité l'appliquer et le mettre en œuvre ce télétravail parce qu'elle a vraiment un souci de bienveillance vis-à-vis de son équipe et elle a bien conscience que passer une heure voire deux pour aller au travail, c'est pas des bonnes conditions. Et en fait, il se trouve que sa responsable hiérarchique supérieure directe a refusé qu'elle le mette en œuvre. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, dans une même entité de travail gérée par l'État, il y a des directives qui vont dans des sens divergents et que finalement, cette mise en œuvre, elle est quand même due au bon vouloir d'une personne qui finalement décide de ne pas le mettre en œuvre.
Merci Lise pour ce témoignage, Clément Rouchet. Effectivement, il suffit d'un maillon dans cette chaîne-là pour que ça marche pas.
Oui, complètement. Effectivement, on a connu des accompagnements dans lesquels il y avait une politique vraiment d'entreprise qui était très volontariste et dans le même temps, sur certaines entités, sur certains services, ça coinçait parce que le patron estimait que c'était pas le bon moment, parce qu'il estimait que ça n'était pas compatible avec l'activité. Et donc, il faut poursuivre les efforts d'accompagnement. Il faut aller parler à ces gens-là, les convaincre, lever le doute par l'expérimentation aussi. Et c'est pour ça que les premiers grands accords étaient des accords expérimentaux et on s'est rendu compte en fait ça avait plutôt des impacts positifs et donc on a levé les réticences aussi par l'expérimentation.
Et parce que c'est vrai, Bénédicte Ravache, pardon.
Pour le coup, on peut comprendre le manager qui hésite à essayer pour la première fois à ce moment-là. Il faut arriver à en parler après en disant, en fait, le temps qu'on a passé dans les transports, c'est du temps qu'on a perdu, de fatigue et tout. Donc, il faut pouvoir échanger et pas seulement au moment du télétravail occasionnel.
Mais en même temps, moi, je suis quand même un peu épatée par les chiffres. Alors d'abord, c'est très compliqué de trouver des vrais chiffres. Preuve que c'est tellement pas dans notre culture puisqu'on ne trouve pas les chiffres. Mais enfin, globalement, on dit qu'en 2010, on est à 8,9 à peu près en France en pourcentage de télétravailleurs. Les Italiens sont encore pires que nous, mais alors le Royaume-Uni 22 et quelques, la Suède 27 et quelques, la Finlande 32 et quelques. Comment ça se fait qu'on est tellement en retard quand même?
Alors c'est pas comme le chômage, mais il y a des batailles de chiffres. C'est-à-dire que est-ce qu'on étudie le télétravail, alors avant les ordonnances, c'est-à-dire quelqu'un qui a un contrat de travail qui stipule qu'il fait du télétravail, ou, et là on était nous dans
contractuel ou occasionnel,
voilà, nos évaluations, elles étaient plutôt à 50% de télétravail occasionnel. Donc et c'est pour ça qu'il y avait un sujet à faciliter, à adapter un peu le droit pour qu'il corresponde plus à la pratique.
Mais comment ça se fait qu'on met tant de temps cependant la vraie réticence à la base, c'est donc probablement celle de l'employeur en fait. Comment ça se fait que l'employeur a eu du mal à lâcher les rênes?
Elle est quand même culturelle quand vous regardez les chiffres, même s'ils datent de 2010, on se rend compte que les pays scandinaves, les pays de culture anglo-saxonne qui n'ont clairement pas la même relation au travail que certains pays latins comme la France ou l'Italie, vous l'évoquiez, et ça se traduit dans le management, ça se traduit dans le monde du travail par des pratiques managériales qui sont différentes. Si je veux caricaturer, le manager français, il aime bien avoir ses petites ouailles sous la main, il aime bien savoir qui est au travail, qui ne l'est pas, et le voir physiquement. C'est une caricature, évidemment. Le management évolue fort heureusement, mais ça continue à compter, et la prégnance est plus forte que dans des pays anglo-saxons ou scandinaves.
Mais justement, on a cette question sur franceinter.fr, est-ce qu'on peut être chef de service et télétravailleur?
Oui.
Évidemment.
C'est vachement bien pour les gens qui travaillent sous... Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, ne t'inquiète de rien. Sérieusement, on peut être chef de service et télétravailleur?
Oui, alors ça dépend... Est-ce qu'on peut être chef de service à temps plein en télétravail? Ça dépend du métier. Mais il n'y a pas d'incompatibilité de fond. Tout dépend de la façon dont on va pouvoir être effectivement remplir effectivement sa mission.
Voilà, message à la rédactrice en chef du 18-20 qui est chez elle aujourd'hui. On a bien travaillé, Marie-Claude, tout va bien. Cette question extrêmement intéressante sur franceinter.fr, qui paye les frais Internet, le chauffage, etc. Ah, est-ce que ça se partage, ça?
Alors ça a été justement un des sujets de la mise à jour un peu des règles. Parce que la règle de base, c'est ce dont j'ai besoin pour travailler. C'est un outil de travail, c'est un contexte de travail, donc ça revient à l'employeur. Mais quand c'est occasionnel, quand j'utilise ma box avec des tarifs ultra compétitifs et tout finalement, et que c'est moi qui le demande, est-ce qu'il faut comptabiliser tous ces frais-là? Donc le principe n'a pas changé.
Mais attendez, la boîte internet par exemple, qui la paye? Parce qu'à la fois pour travailler c'est utile, mais en même temps pour surfer sur Facebook à la fin de la journée aussi.
Et ben voilà, donc, en fait la question c'est une appréciation juste de l'investissement que représente l'adaptation du poste de travail. Donc si ma box, elle me sert à la fois à titre personnel et pour mon métier, on peut trouver, mais comme le forfait téléphonique, de dire on fait une partie employeur, une partie salarié.
Nous, on a eu un tiers de tiers, par exemple, à Radio France pendant un moment sur ces histoires-là.
Il faut pouvoir s'entendre. En fait, il faut pouvoir justifier après vis-à-vis des URSSAF que c'est pas un avantage qu'on a un peu fait passer sous le tapis.
Non, mais effectivement, parce qu'on se rend compte aussi que dans la balance économique, l'économie de temps de transport, d'abord est aussi plutôt favorable aussi en général aux télétravailleurs. Et donc au final, il y a aussi de plus en plus d'accords qui ne stipulent pas forcément précisément de remboursement sur la box ni de forfait de sujétion.
Allez, télétravailleurs et télétravailleuses, portez-vous bien.